Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Xavier Gral, La fête de nuit. À 2 heures du matin, une jeune femme poussa la porte du bar. Elle leur était inconnue. Personne ne lui prêta attention. Eux seuls purent admirer son corps car elle était complètement nue sous son manteau noir. « Je t'avais dit que quelque chose arriverait », souffla Arzel. L'inconnu, sans hésiter, vint s'asseoir à leur table. De longs cheveux blonds lui tombaient sur les épaules. Son visage, discrètement maquillé, trahissait, on ne saurait dire, quelle tristesse. « Vous prendrez bien un scotch ?» proposa Arzel avec le peu de timidité qui lui restait. Pour toute réponse, elle inclina la tête. Arzel commanda un autre verre que le barman poussa aussitôt. De ses mains fines et longues, la jeune femme agita les glaçons. « À qui avons-nous l'honneur ?» interrogea sentencieusement Glenn en verve. « Appelez-moi comme vous voulez. » Les deux amis n'en étaient pas encore aux curiosités psychologiques. Ils allaient au visible, carrément, c'est-à-dire à l'inspection de ce corps admirable assis près d'eux, les cuisses repliées, les hanches formant un galbe parfait qui les excitèrent. Et leurs impatientes mains caressaient les verres d'alcool avec de pitoyables fébrilités, comme navrées de ne pouvoir dès l'instant se livrer à des caresses plus précises.
« Ça alors, je n'ai jamais vu ça, une femme nue dans un bar !»
glapit Glenn, l'œil étincelant.
« Chut ! Les autres vont nous entendre !»
Les autres ? Ils en étaient à se prendre bras dessus, bras dessous, possédés du plaisir d'écraser sous leurs pieds le sol de la ville, eux, les fils et les filles de Bretagne, que l'on disait incorrigiblement mélancoliques. Les bouteilles vibraient sur les étagères. Les lampes incertaines clignaient sur les tables. À chaque fest-noze, c'était ainsi, là-bas. Cela commençait avec une sorte de gravité rituelle, puis, au fur et à mesure que les étoiles s'allumaient dans la nuit et que se vidaient les bouteilles d'hydromel, la ronde se gonflait de délire. À l'aube, la rosée surprenait dans les douves des couples étonnés d'être là, enfantins, sans mémoire. Et des festounoses, il y en avait partout, au triangle des chemins, sur l'air des brandes, dans les hameaux calottés de chaume, dans les villages sans chalets de genêts, survivance d'une tradition de ceux-là qui prenaient prétexte de tout pour se réjouir, prétexte du blé en herbe, prétexte du blé coupé, prétexte des solstices et prétexte des saints. La raison est romaine, mais la nuit est celtique. La nuit avec son mystère descendu dans les demeures, la nuit avec les morts qui rêvent. Annos, la nuit. Cependant, Arzel cherchait à engager une conversation qui ne fût pas banale avec l'inconnu. Au point où il en était, il eût préféré laisser à son corps, plutôt qu'à sa parole, le soin de la charmer. Qui était-elle ? De quelle contrée venait-elle ? Que voulait-elle ? En esprit, il l'appela Eva. Dans l'appareil où elle était apparue, aucun autre prénom ne lui sembla mieux convenir. Eva. Le jardin sur la terre, les fleurs dans le jardin, et les fruits désirables. Et l'homme là, à côté, hésitant, vaguement inquiet, couard. Il y avait une vérité dans la légende biblique. Dans le couple, le courage, la curiosité, le goût de la découverte étaient l'apanage du sexe que l'on appelait faible. La femme avait envie de la vie, la femme avait le génie de la vie. Et elle savait la recevoir en riant dans son ventre. « Si je vous appelais Eva, » hasarda-t-il. « Mon nom est Mona, » dit-elle gravement. Déjà, il l'aimait. Il chérissait ce corps hautain parfaitement harmonieux, dont les bras, bien que reposant sur la table, semblaient mieux faits pour la possession que pour l'offrande. Il aimait ce visage triangulaire, blanc, légèrement hâlé au front et aux pommettes, ses yeux noirs, ses épaules rondes et ses seins vifs, gonflés, fermes. Il se reprocha d'avoir bu, de se trouver là. Il eût aimé une plage déserte, sous la lune. « Je crois que je vous aime bien, » articula-t-il avec audace. Il lui proposa une cigarette, mais elle refusa. Il se reprocha cette offre absurde. Une femme nue ne fume pas, quand elle est comme ça, assise, hiératique, à la fois jeune et ancestrale, divine, presque divine. « Si vous veniez au Ménèque, » dit-il, « où ? En Cornouailles, chez moi, dans les montagnes noires. Et puis quoi encore, Glapi Glen ?» Les deux amis se regardèrent. Il y eut entre les deux bardes une imperceptible expression d'hostilité. Glen tirait tout à lui dans un orgueil monstrueux. Arzel avait des égoïsmes plus discrets. « Le Ménèque, au fond, ça ne me déplairait pas, » répondit Mona. « Comment c'est ?» Arzel se jeta dans une description enthousiaste de sa demeure. C'était au bout du monde, un manoir blanc et gris. La porte était d'ogive. On pénétrait par elle dans le vieux temps perdu des harpes et du feu. Le feu toujours brûlait dans la haute cheminée de pierre. Le feu qui le fascinait à ce point qu'il eût aimé le prendre dans ses mains. Et tournait un escalier de granit jusqu'à l'étage où se trouvaient trois chambres basses aux murs chaulés. Maintenant le manoir était déserté. Il ne l'habitait, seul, que 3 mois par an. Le reste du temps, chouettes et choucas y faisaient leur nid. 5 hectares de landes et de bois entouraient la maison. Là était son antre, sa ville de tristesse, sa forge des songes. Oh, vous savez, c'est dans les collines, en plein pays de mystère. Ce monde-ci ne connaît pas le mystère, le monde mathématique, rationnel. Là-bas, c'est le mystère. Les chemins, ils tournent sur eux-mêmes et on ne sait pas où ils vont. Les chênes, dès que tombe le crépuscule, sont des géants à 100 bras. Les fenêtres chuchotent des confidences quand la brise agite les rideaux et que grincent les gongs. J'aime si passionnément, si douloureusement mon pays que je crains parfois d'en perdre la tête. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà fait. Bon, je vous aime comme ça. Ce monde-ci ne voit rien, je vais vous dire, il n'imagine plus. La machine, l'ordinateur, la sainte électronique, Notre-Dame nucléaire, vous savez, voilà ce qu'il croit. Mais tout est dans tout, Dieu est dans tout et il grandit tout. Il est dans le whisky, il est dans mes arbres du Ménèque, dans la fontaine du Ménèque, dans les lignes rondes et tendres du toit du Ménèque et dans le vent qui souffle dans les haies. Bientôt dans cette ville-ci, les hommes seront secs de toute rêverie. Les chiens de chez moi sont beaucoup plus intéressants que les hommes que je côtoie à Paris. Ils rêvent, eux. « Je vous aime beaucoup comme ça, » dit-elle encore. Et Arzel, ivre de mots et de scotch, continuait son discours à la grande impatience de Glen qui vidait verre sur verre, déjà absent, indifférent à leur jeu. Il poursuivit. « Transpercer les apparences, n'est-ce pas notre première tâche? abattre le mur, aller au-delà, loin, très loin. Parfois, je voudrais être lévrier, aigle, cormoran, que sais-je. Mais pourquoi vous dis-je tout ça alors que je ne sais rien de vous ? Une fois encore, un sourire énigmatique erra sur les lèvres de Mona. Parce que l'un, l'autre, vous êtes barde, dit-elle d'une voix neutre, et que je voulais connaître cette espèce rare. Glenn avait quitté leur table et s'était dirigé vers le bar. Là, accoudé au zinc, il arrosait les copains, interpellant le gars qui, consciencieusement, continuait à se curer les dents. « Moi, tout me crucifie, » articula Arzel. « Même l'alcool, surtout l'alcool. » Il pensa aux aubes sales. Quand les os rompus et le sang amer, il s'en revenait de ses fulgurantes beuveries. Il pensa à toutes les hyènes qu'il entendait alors dans sa tête, à sa pauvre intelligence soudainement délabrée comme une vieille grange. Il pensa avec effroi à ce que dans le monde des autres on nommait la crise, ou le délirium, ou la névrose. À ces heures glauques qui ne passaient pas, à ce temps gris, immobile, où son esprit voguait loin de lui et le flagellait de remords et de regrets quand ce n'était pas d'images idiotes. Pour un poème écrit, pour un poème né de lui, aimé avec son cœur, que de batailles perdues contre lui-même, que de déroutes, que d'humiliations. La veine, le souffle et la mémoire se payaient de bien des abîmes. L'illumination surgissait après les jours de rien, les jours du néant, et il la trouvait avare. Arzel glissa sa main sur le ventre de l'inconnu. Elle posa sa propre main sur la sienne sans que son visage exprimât quelque émotion. Des images vulgaires montèrent en lui qu'il chassa aussitôt. Il avait avec les femmes de convenables délicatesses. Sur ce chapitre, il s'accordait bien peu avec Glenn, qui se targuait de ses conquêtes comme un chasseur de ses prises. « Votre main me brûle, » dit Mona. « C'est bon. » « Votre ventre est chaud et doux, » répondit Arzel doucement. « Il serait bien d'être en vous complètement. Au Ménec, vous seriez reine. »
Thank you.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
La fête de nuit, Xavier Gral. Mona, au centre des genêts en fleurs dans l'aurore de juillet. Mona nue sur sa terre mère, Mona ressuscitant la vieille patrie par le fait de sa mûre splendeur, un rêve. Arzel alluma une cigarette. Tout à présent lui sembla brouillé, la pièce du bar où les derniers copains dansaient, leurs glaces aux illuminations multicolores, les cuivres. Et devant eux se dressait la statue de Glenn, fière dominatrice. Et Arzel, à cette seconde, sut qu'il se séparerait de son ami et qu'ils prendraient l'un l'autre leurs sentiers respectifs. Glenn avait révélé Arzel à lui-même. Mission accomplie. Le feu en lui avait été allumé, il ne s'éteindrait plus. Il brûlerait à l'intérieur de lui, libre, souverain. Ainsi chaque être va de métamorphose en métamorphose sur les routes de la vie. La bouteille de scotch était au milieu de la table, habitée par le dieu Belen, celui que naguère on célébrait à l'entrée de mai par l'embrasement d'un immense tantad, ce feu que l'on entretenait jusqu'à l'aube. Voici le feu père, voici le feu de Belen. Arzel se versa une autre rasade en victime consentante de sa profonde faiblesse. Qui l'avait fait ainsi? Quel ver le rongeait? Quel désespoir! Cet obscur besoin que j'ai de me détruire. Tout le monde se détruit, je crois. Le tout est de trouver le champ approprié à sa destruction. L'action aussi est une forme de destruction universelle. Et la guerre, et la politique, et le négoce. Mais il en est qui renaissent du milieu des cendres. Qui? Les poètes, peut-être. Mona le comprenait donc, enfin. Elle était loin de la cohérence française, cette cohérence militaire, lourdaude, cette cruelle et latine raison qui ratissait tout devant elle, les barbares et les moissons, les fêtes et les feux. Cette raison-là était l'alibi des spadassins et des généraux, l'orgueilleuse raison des sénateurs gâteux. Cette cohérence sanglante qui laissait derrière elle des cadavres pour établir sur leurs cendres des structures abstraites. Arzel sentait sourdre en lui le vieux chant, les joies fortes de la fête éteinte. Professeurs et prêtres avaient tenté d'étouffer cette haute grâce lyrique, toute de sensibilité, de sensation, de rêverie, mais voici qu'il s'était récupéré lui-même par la médiation de Glenn. Il avait vaincu cette culture artificielle. L'armorique était en lui comme un lac, et un jour, rejetant loin l'enseignement des maîtres, le souffle avait frissonné sur ses os et la musique pour toujours était née dans son âme. Et il l'avait donnée à son peuple sans rien demander en échange librement, gratuitement. Et maintenant, il savait entendre l'appel de la mer et voir loin, au-delà des apparences, les réalités fabuleuses. Rimbaud, avant Glenn, l'y avait aidé. Une saison en enfer était l'une des rares œuvres de la langue française qu'il put considérer comme géniale. Le reste n'était trop souvent qu'œuvre de cour. Ses écrivains se préoccupaient des dîners en ville, des réactions du prince sur son trône ou sur son pot, et des papotages de salon au sortir des alcôves. Les écrivains chrétiens eux-mêmes, hormis trois ou quatre prophètes, ne lui apparaissaient que comme des scribes sombres, visqueux, narcissiques, moins préoccupés de la glorification de Dieu que de celle de leur propre personne, mulots de confessionnal qui pensaient que les agitations de leur sexe dans un froc malpropre avaient valeur universelle. Flagornerie, cagoterie. La prétendue universalité des valeurs classiques, là, était le joug passé au peuple privé de mémoire par les soldats balourds de la conquête romaine. À travers les temps, en remontant le temps, Arzel cherchait l'humaine sagesse des vieux cultes, la magie des choses, la légende des jours. Il cherchait sa source, sa fontaine, la source de sa ferveur, la fontaine de sa joie. Barde, c'était le seul honneur qu'il revendiquait. Il ne permettrait à personne de lui contester. Il avait trop vécu dans la ville pour n'en point connaître la vanité. Il avait jaugé ses gens, il en avait mesuré l'aune. La ville avait le cœur dur. Elle ne brillait que par ses escroqueries. Elle ne créait pas, elle volait le génie des autres. La main d'Arzel caressait franchement les cuisses de Mona. Et tout le monde alentour dansait, danse, guitare, corps contre corps. Et les flammes miséricordieuses du whisky dans les cœurs, gong du batteur, cœur des hommes, cœur des anges. Ah, que la vie ne soit que folk et songe. Mona toujours se tenait droite, immobile, comme sortie des mains d'un sculpteur. Ses yeux seulement semblèrent exprimer une lourde nostalgie quand le jukebox attaqua « Bye bye love ». Cadence des mains, gémissement de la guitare électrique. Bye bye, bye bye, happiness, hello, loneliness. Il but encore. Il pensa qu'il ôtait ainsi 2 ou 3 mois de sa vie. Mais il voulait harponner l'état de grâce. Son cœur battait comme une cloche, ce cœur tant aimant, trop aimant, ce cœur qui avait déjà tant battu chamade sous les coups de l'amitié et de l'amour, si abreuvé de larmes, de rires, si gonflé de ferveur. Un jour, il craquerait sous la terrible et divine main de l'alcool. Que de matin navrant pour une musique de nuit, que d'enfer pour un coin de paradis. Il chassa ses pensées et lui dit: Mona, je peux vous l'avouer passionnément, j'ai aimé Glenn. C'était une passion virile, limpide, sans trouble, sa fougue, sa force, sa tempête. Il était un autre moi-même que j'avais séquestré, que j'avais refoulé. Prince paysan, voilà ce qu'il était. Il sentait le blé, il sentait l'herbe. Et j'ai toujours été frustré de mon amour de la terre. Lui, non. Il arrivait avec ses gros sabots, établissant sa souveraineté bardique sur toute assistance en tout lieu. Il surgissait, intact des profondeurs de la longue bretonne nuit. Il sortait, conquérant des lignes du Barzaz-Braise. Entre Glenn et moi, il y a eu le miracle d'une coïncidence poétique absolue. Il avait mis la main sur le trésor que depuis longtemps je cherchais. « À présent, vous voguerez sur votre propre navire, » répondit-elle. « Mona, le jour va se lever. » Arzel rêvait d'étreinte plus intime, prendre Mona au centre de la ville, l'habiller de son corps, la prendre toute, faire l'amour jusqu'à en mourir. Mona, sa vie, sa mort. Mona, sa brande. Mona, sa grève. Et tout autour, à présent, la frérie déroulait ses orbes frénétiques. Ce peuple était aussi, par l'Irlande, le créateur du folk, car revenait le vieux temps de la romance et de la guerse. L'heure bretonne sonnait enfin au beffroi de toute la ville, sur les pavés arrachés par la houle libertaire. Les grands états abstraits pouvaient déployer leurs noires milices, tenter de juguler les appels des autonomies, rien n'y ferait. L'homme enfin voulait être dans l'homme. Et les vagues de l'océan venaient claquer jusqu'aux portes des ministères les paroles du large. « Les temps vont changer, messieurs !» criait Glenn dans ses tournées. C'était déjà fait. Une grande mue habitait l'Europe qui la poussait à rejeter les oripeaux napoléoniens et les épées de la société militaire, préfets, sous-préfets, généraux, brigadiers, badernes de la franque patriotouillerie, cagneux chevaux de l'écurie bureaucratique verraient leur pouvoir disputé par de jeunes loups qui voulaient vivre selon leurs lois dans leur propre guéret. Arzel en était sûr. La libération viendrait du pays des loques et des vagues. Trop de poètes comme lui s'étaient levés, trop de colère avait mûri parmi les derniers blés, trop de mépris avait été jeté à la figure innombrable de Bretagne pour que ne viennent de là le sursaut et les signes des nouveaux temps. L'histoire n'est jamais définitivement écrite. Rien ne meurt tout à fait de ce qui fut. Après le cycle de la raison, viendra celui du rêve. Et Arzel, caressait le corps de Mona, et sa voyante, flamboyante ivresse. Brouillant les sons et les couleurs du bar, Glenn n'apparaissait plus que monstrueusement dans un halo de fumée immobile, hostile, roide menhir sur le sable de la nuit. Et toujours, les bouteilles chantaient des hosannas et continuaient la ronde dans le Hourvari sous les glaces voyeuses. Il voyait, lui, les herbages d'acier, les colonnes de granit des Cromlechs ensoleillés de genêts, de blanches hermines, le fixaient de leurs yeux durs. Des haies vives encadraient des noces paysannes et de féeriques brocéliandes allumaient des rires dans la gorge des sylphides. Les murs de l'exsangue réalité avaient croulé. Arzel entrait dans l'invisible, douloureux à la fois qu'ébloui. Gwendid, Barados, Tir Nanog, le pays blanc, le pays de l'éternelle jeunesse, à portée de sa main là, au mitant de son âme. La ville immonde n'existait plus. Il l'écrasait avec son poing pour retrouver le pays où tout était relation, religion, où tout avait un nom, la pierre, le chemin, la ferme, et chaque nuance du vent à la mûre des barques, filait les talus, les troménies de talus dominés de barnières d'or. Les manoirs chantaient par la bouche des persiennes et de douces bêtes sortaient des taillis, la gueule gerbant des soleils. La poésie le tirait à elle, le hissait sur son pavois. Elle était la réalité réelle, l'ultime raison du monde. Avec transport, Arzel étreignit Mona. Elle se laissa faire. « Vous ne me connaissez pas, murmura-t-elle. Vous ignorez quel danger je peux vous faire courir. Je porte les maléfices, Arzel. Je vous enliserai dans les marais de Yon-Elez. Tel est le sort de qui prétend me posséder. » Elle se pencha sur lui et lui décocha un sourire qui lui fouetta le sang. Cela devenait insoutenable. « Caressez-moi encore, dit-elle. Là, plus bas, plus profondément, je vous brûlerai. » Il lutta contre son désir. Il l'observa à nouveau. Il lui trouva une ressemblance frappante avec un masque celtique que l'on venait de découvrir dans le Menes Home. Un blues d'Armstrong faisait tourner les derniers danseurs. Kerouac, affalé sur un banc, dormait. Arzel poussa la porte. L'air de la ville était froid, aigre, il titubait. Il ferma les yeux et prit la main de l'inconnu. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Xavier Gral, La fête de nuit, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.